carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
La Nativité, une fresque de Fra Angelico et l'Adoration des Mages de Paolo Uccello. Noël est le moment chez les chrétiens de célébrer la naissance de l'enfant Jésus, un sujet de prédilection pour les peintres, de même que l'Adoration des Mages qui, depuis le Moyen-Âge et plus particulièrement durant toute la Renaissance, fête l'Épiphanie, la fête de la lumière. Et cette année, nous avons eu la chance de voir à Paris l'importante et éblouissante exposition Fra Angelico au musée Jacques Marandré et bien sûr, nous y trouvons une Nativité et une Adoration des Mages. Et cette occasion était trop belle pour ne pas demander au conservateur du musée Jacques Marandré et commissaire de cette exposition, Nicolas Saint-Fargarneau, de revenir dans notre studio pour nous faire rêver une fois de plus sur Fra Angelico et son univers. Nicolas Saint-Fargarneau, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de vous être déplacé une fois à nouveau alors que Noël est à notre porte et que tout le monde s'affaire. Donc, Fra Angelico, à qui nous avons donc déjà consacré une autre émission, et la Nativité. Une nativité parmi peut-être les plus célèbres est la fresque de Fra Angelico dans la cellule monacale 5 du couvent de San Marco à Florence. Qui va à Florence visite forcément, c'est obligatoire, le couvent de San Marco avec ses chefs-d'œuvre de fresques dans chaque cellule. Il y en a, je crois, une quarantaine. Alors c'est une des merveilles du patrimoine artistique d'Italie. Quelle est votre impression de ce fameux couvent San Marco, Nicolas Saint-Fargarneau?
Bien, écoutez, c'est évidemment un lieu que l'on doit visiter, d'abord parce que, vous l'avez dit vous-même, c'est là où l'on voit l'œuvre décorative monumentale de Fra Angelico sur place, et aussi parce que ce décor qui est mis en œuvre dans les salles capitulaires, dans le réfectoire et puis dans les cellules, dans la bibliothèque. C'est un décor qui correspond à la théologie, la spiritualité qui est propre à celle des dominicains et plus particulièrement à celle des dominicains observants. Alors, puisque vous l'avez rappelé, nous sommes au moment où nous nous préparons à fêter la Nativité, permettez-moi de revenir un instant sur quelques faits religieux dont nous avons besoin pour comprendre tout le sens de cette Nativité en particulier, mais aussi de ces décors qui sont mis en place. Voilà, je voudrais d'abord vous dire que ce monastère San Marco, c'est un monastère qui a été fondé à la fin du XIIIe siècle par la communauté des moines sylvestrins. Autrement dit, c'est un autre ordre religieux qui est à l'origine de ce couvent. Et au moment où le couvent est fondé, en 1299, on peut dire que ces moines sont dans la stricte observance des règles monastiques et qu'ils se comportent comme des modèles et des exemples à suivre auprès de toute la communauté florentine. Mais malheureusement, si nous devons nous transporter de siècles plus tard, ces mêmes moines qui faisaient preuve d'une vie entièrement consacrée à la prière et à la dévotion ont bien changé. Leurs habitudes ne sont plus celles que je viens de décrire. Ce sont des moines qui se complaisent au confort et même, il faut bien le reconnaître, à des habitudes qui sont contraires à celles que les moines doivent observer. On parle alors de décadence. Et c'est parce que le pape Eugène IV réside à partir de 1436 à Florence, qu'il décide de confier ce monastère aux dominicains de Fiesole parce que ces dominicains ont rejoint le grand mouvement de l'observance, ce mouvement qui justement prône le retour aux règles d'origine. Et parce qu'ils cherchent des moines qui pourraient racheter la conduite des sylvestrins, ils s'adressent à ces dominicains. Alors, comment faire lorsque il prend cette décision? Eh bien, il va donc donner le couvent aux dominicains de Fiesole le 21 janvier 1436. Et à partir de cette décision, il va rencontrer comment dire, un personnage florentin qui a besoin de faire oublier lui aussi ses turpitudes. Ce personnage, c'est Côme l'Ancien, Côme de Médicis. Pour que vous compreniez bien les choses, il a sa vie durant mené une activité d'usurier. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'Église condamne totalement cette activité. Alors, Côme, pour se faire pardonner, décide de prélever une part de sa fortune et de reconstruire le couvent San Marco.
Il va donc à Florence, cette fois-ci.
À Florence. Il va donc faire appel à l'architecte Michelozzo, qui est le premier, on peut le dire, qui va installer une architecture de la Renaissance. Pensez à ces colonnettes, pensez à ces voûtes en cintre magnifiques qui prennent le relais d'une architecture ogivale, cintrée, qui existait précédemment dans tous les bâtiments religieux. Voilà, c'est la première étape, la reconstruction du couvent, son agrandissement. Et cette étape, on peut dire qu'elle a lieu entre 1438 et les années qui suivent. Et très rapidement, le même Côme l'Ancien va faire appel à Fra Angelico de la communauté de Fiesole pour organiser la décoration de ce nouveau couvent dominicain. Et donc, Fra Angelico va travailler à Florence de 1438 à 1443. C'est à cette occasion qu'il réalise le décor des salles du rez-de-chaussée, avec notamment la salle capitulaire, et puis aussi de toutes les cellules qui sont à l'étage, et vous l'avez rappelé, de la cellule numéro 5, dans laquelle nous découvrons la nativité.
Parce que donc dans chaque cellule, Fra Angelico dépeint la vie du Christ et la Passion.
Alors, allons un peu plus loin dans la compréhension de ce que l'on peut appeler et qualifier de cycle. Le supérieur du couvent de Fiesole, qui est aussi le supérieur du couvent de Florence. Autrement dit, c'est la même communauté qui est établie à Fiesole et à Florence. Plus tard, les deux communautés seront séparées. Mais au moment qui nous intéresse, c'est-à-dire autour des années 1440, c'est la même communauté. Qui est à la tête de la communauté de Fiesole et de Florence, celui qui deviendra saint Antonin. C'est l'un des grands théologiens dominicains qui succède à Albert le Grand et qui succède bien entendu à Thomas d'Aquin et qui succède évidemment à Dominique, donc le fondateur de l'ordre. Et ce saint Antonin se signale par des sommes écrites de sa main, qui sont des sommes théologiques d'un niveau extrêmement élevé. Et dans ces sommes, il fait des recommandations. Il dit en particulier, prenez toujours comme référence première le Christ et sa vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles il va demander à Fra Angelico de distribuer dans les cellules de ses moines des scènes de la vie du Christ qui seront des objets de méditation.
Oui,
donc vous voyez, il y a une volonté très précise de la part du supérieur du couvent et on peut dire que Fra Angelico va illustrer cette pensée de son supérieur et installer dans chacune des cellules des scènes qui seront en effet pour leur vie durant des objets de réflexion et comment dire, des images qui vont susciter, bien entendu, de la part des frères qui les ont sous les yeux, prière et méditation.
Oui, comme lui-même, Fra Angelico était un homme très pieux et
absolument
spirituel. Et donc, cette piété, justement, se ressent magnifiquement bien dans chacune de ses fresques. Alors, parlant des fresques, on peut peut-être rapidement rappeler à nos auditeurs quel est le procédé, la technique du travail de la fresque?
Eh bien, très volontiers, parce que dans les années 1960, tout le cycle des fresques du couvent San Marco a été nettoyé, restauré. Et à cette occasion, on a pu faire des observations qui nous permettent de comprendre comment ces compositions murales ont été réalisées. Alors, d'abord, il faut savoir que Fra Angelico a tracé sur les murs qui devait recevoir ses décorations, ce qu'on appelle une sinopia. C'est-à-dire qu'il a tracé un dessin au charbon de bois, donc un dessin en noir, ou alors à la sanguine. Et donc vous avez cette sinopia qui est tracée sur le mur blanc en rouge, qui donne la composition générale avec les figures, l'architecture, la mise en place du décor. Voilà, ça c'est un travail que Frangelico réalise dans chaque cellule en 2 jours de temps. Chaque cellule va être pourvue d'une fresque et pour préparer cette fresque, il installe le dessin sur le mur et on sait aujourd'hui qu'il a mis 2 jours pour achever
le dessin préparatoire.
Et puis ensuite, il va procéder à la peinture elle-même. Alors, comment les choses se passent? Eh bien, il va poser sur son dessin et sur une surface donnée, je vous expliquerai le pourquoi dans un instant, sur une surface donnée, il va poser un enduit frais qui est composé de sable et de chaux, et le tout mélangé à de l'eau. Puis, lorsque l'enduit est posé sur le mur, il va reprendre les contours du dessin et donc tracer sur l'enduit frais avec de la couleur, on pourrait presque dire de l'aquarelle, des pigments dilués dans l'eau. Il va reprendre le dessin et donc tracer les personnages, l'architecture et le reste. Que se passe-t-il? L'aquarelle est aspirée par, l'enduit humide. Et donc, le pigment se dépose à l'intérieur et à la surface de l'enduit. Dans un deuxième temps, le fait de rajouter beaucoup d'eau sur cette surface va provoquer une réaction chimique. La chaux vive va réagir et va, par un dégagement de chaleur, vitrifier le sable. Dans le sable, vous avez les cristaux qui vont se vitrifier. Et de cette façon-là, vous allez obtenir une surface certes colorée, mais qui va être en réalité très solide. On a tort de croire que la fresque est une technique de peinture qui est fragile. Bien au contraire, la couleur est enserrée dans cette couverture qui la protège. Et la difficulté, naturellement, c'est qu'une fois que le processus a eu lieu, on ne peut pas revenir dessus. Et ça veut dire qu'il faut, de la part du peintre, une habileté extraordinaire pour savoir très précisément là où mettre plus de couleurs, là où au contraire la diluer de façon à obtenir les effets recherchés.
C'est absolument inimaginable quand on écoute ce que vous venez de nous raconter. Donc, comment pratiquement ça a été exécuté. Et quand on voit les fresques avec une infinie minutie, tous les traits du visage, etc., de la composition, c'est inimaginable qu'on arrive à ces chefs-d'œuvre. Vraiment, c'est.
Voilà, mais cela explique aussi pourquoi aujourd'hui nous les découvrons dans un état de fraîcheur aussi grand. C'est parce qu'en réalité, la composition, la peinture, elle est protégée. Alors évidemment, dessus, vous avez souvent de la crasse. Mais cette crasse-là, elle n'est pas, comme sur les peintures à l'huile, appliquée sur la peinture proprement dite. Et c'est pour ça qu'on a pu la dégager et revenir très exactement à la composition d'origine. Et c'est ainsi que nous découvrons dans la cellule 5, vous l'avez dit, nativité.
Voilà.
La nativité que Frangelico a réalisée. Alors permettez-moi juste encore un détail sur ces questions techniques. Frangelico est intervenu dans les 40 cellules, il est intervenu dans la salle capitulaire, il est intervenu dans le cloître, l'un des cloîtres à l'entrée du couvent, il est intervenu dans l'église San Marco. Autrement dit, vous vous dites, mais enfin, le pauvre, comment a-t-il pu se démultiplier à ce point-là? Eh bien, la vérité, c'est que, bien entendu, il a été assisté par des collaborateurs qui, dans certains cas, ont beaucoup travaillé. Alors, les spécialistes considèrent qu'une partie des fresques a été réalisée directement par Frangelico. Ils considèrent aussi que certaines cellules ont été peintes par des collaborateurs et notamment par Benozzo Gozzoli, qui est l'un de ceux qui se trouvent le plus souvent aux côtés de Frangelico. Il semble bien que pour la fresque qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir cette nativité, eh bien, le dessin, l'invention est incontestablement de la main et de l'esprit de Frangelico, mais la fresque proprement dite, la réalisation de la peinture, est le fait de ce collaborateur Benozzo Gozzoli.
Donc, alors, la nativité. Nous voyons une scène traditionnelle avec donc la Vierge Marie et Joseph entourant le petit Jésus. Même l'âne et le bœuf ne manquent pas. et vous allez nous la décrire.
Oui, je voudrais tout d'abord vous dire que ces fresques, eh bien, elles prennent la forme du mur de la cellule. Et la cellule, c'est une petite pièce de format carré. Elle est voûtée d'une voûte sur arête. Et donc, vous avez sur le fond de chaque mur, vous avez une surface qui s'élève et qui se termine par un cintre. Et donc, c'est dans le cadre de cette surface que nous découvrons la fresque qui nous intéresse ici, je le rappelle, la nativité. Donc, nous avons, comment dire, une base qui est horizontale, nous avons deux côtés qui s'élèvent de façon horizontale, et puis la composition est surmontée, je le répète, par ce grand cintre. Et à l'intérieur, nous voyons, vous l'avez dit, la nativité telle que nous l'attendons traditionnellement. Et nous avons au premier plan, à gauche, la Vierge, à droite, le Saint-Joseph, au milieu, au sol, l'enfant Jésus. Nous avons, on le constate encore, deux autres personnages qui apparaissent, un moine dominicain à droite. Nous voyons que son crâne est, comment dire, ouvert et que le sang coule. C'est bien entendu Saint Pierre Martyr, l'un des grands saints dominicains. Et puis nous avons à gauche, derrière la Vierge, cette femme qui porte une couronne en qui nous reconnaissons Sainte Catherine d'Alexandrie. Et ce qui est très important à souligner, c'est que dans toutes ces cellules décorées par Fra Angelico, vous avez des scènes qui appartiennent à la vie du Christ et à la passion du Christ, mais vous avez toujours un personnage qui nous introduit dans l'histoire. Ce personnage, c'est un personnage qui appartient à l'ordre dominicain. Et donc, nous pouvons imaginer que le moine qui est dans sa cellule, agenouillé, en prière, regarde son frère qui l'introduit à cette scène qui est évidemment pour lui une scène miraculeuse puisque c'est la naissance de l'enfant Jésus, pour les chrétiens, la naissance du Sauveur. Alors, les choses s'expliquent du point de vue spirituel, du point de vue religieux, mais regardons comment Fra Angelico a mis en œuvre cette composition. J'ai parlé du premier plan. Derrière ces cinq personnages, nous avons bien sûr la crèche. Et vous voyez, c'est très curieux ici, on pourrait croire que Fra Angelico hésite, parce que nous avons une cabane avec ses montants, avec sa couverture. Nous voyons cette cabane en profondeur et donc nous découvrons le dessous de la charpente. Et regardez, au fond de la composition, nous avons une grotte. Et c'est là que théoriquement se tiennent le bœuf et l'âne, et vous le voyez ici, qui soufflent avec leurs naseaux, qui réchauffent le berceau de l'enfant dans lequel on ne va pas tarder à le poser. Alors ça, c'est assez curieux parce que jusqu'alors, on a soit la grotte, soit un bâtiment en ruine, quelquefois une cabane, mais on n'a pas les deux. Alors pourquoi Fra Angelico a installé les deux ? Eh bien, regardez précisément comment cette composition s'organise. Le cintre de l'encadrement de la composition, vous le retrouvez au niveau de la partie supérieure de la grotte. Et de cette façon-là, nous voyons que notre regard est porté vers la profondeur. Et comme par hasard, eh bien, nous avons le berceau de l'enfant Jésus qui n'est pas installé, comment dire, de façon latérale, mais qui est installé dans la profondeur. Et tout ceci, ce sont des repères visuels qui conduisent notre regard depuis le premier plan où nous découvrons l'enfant Jésus vers le fond de la composition. Qu'est-ce que cela suggère ? Que tout ce que vous voyez, ça n'est pas des images qui sont posées à plat sur le mur, c'est le mur qui est en quelque sorte une fenêtre qui nous ouvre sur un autre monde où nous découvrons cette scène comme si elle était traitée au naturel. Et c'est là où nous pouvons parler de miracle pictural de la part du peintre, puisqu'il a su trouver tous les arguments pour nous suggérer une scène qui a l'air quasiment vraie et réelle. Et bien entendu, jusqu'alors, de très nombreux peintres avaient traité ce thème de la nativité, mais ils n'avaient jamais installé avec autant d'arguments. Et on peut ici revenir sur ce point très important, c'est-à-dire que des peintres novateurs comme Masaccio, Masolino, Paolo Uccello, que nous évoquerons dans un instant, avaient ouvert la voie en proposant ce type de représentation qui s'assoit sur la maîtrise de la perspective. Et je dirais même, pour être plus précis, de la perspective mathématique. C'est-à-dire que la troisième dimension, elle est organisée suivant des règles géométriques qui correspondent à ce que la science géométrique nous apprend. Ça n'est plus de l'approximation, et nous avons en effet ici, on le découvre encore plus, regardez la taille des personnages du premier plan et regardez au-dessus de la crèche la taille des anges qui, bien entendu, font partie de la scène. Ils sont plus petits parce qu'ils sont plus éloignés. Et là, vous comprenez que Fra Angelico, eh bien, non seulement maîtrise tous les moyens de la représentation de la profondeur, mais il les applique parfaitement bien. Et de ce fait, nous avons la sensation étonnante que cette scène qui est représentée derrière la porte, derrière la fenêtre, elle est, je le répète, parfaitement vraisemblable.
Oui, et c'est une composition absolument parfaite pour souligner justement les nouvelles lois de cette période de la première Renaissance, les nouvelles lois de la perspective, comme vous venez si bien de nous le faire comprendre, et en même temps avec cette infinie finesse des traits, quand on pense que tout ça est sur la fresque.
Bien
c'est
sûr.
Vraiment admirable et on est béat comme le béat, on est béat d'admiration, vraiment.
Oui, permettez-moi juste d'ajouter un mot et un commentaire. Vous avez compris que j'essaye de suggérer qu'à la fois il existe un caractère monumental à cette composition et en même temps, n'oublions pas, ce qui est tout à fait vrai lorsqu'on regarde le détail de chaque personnage, on s'aperçoit que Fra Angelico, qui a été, comment dire, élevé dans la tradition de l'enluminure, est un artiste qui était en effet capable de travailler le détail avec une distinction tout à fait remarquable. Et là, nous en avons évidemment un très bon exemple.
Oui, écoutez, après nous être penchés sur le berceau de la nativité de Jésus, je vous propose un chant de Noël, cela s'impose. Ensuite, nous verrons, si vous voulez bien, donc les particularités de cette adoration des mages de Paolo Uccello, autre artiste de la Renaissance. Voyons donc l'adoration des mages de Paolo Uccello, qui s'appelle Paolo di Dono en fait. Elle fait partie d'un triptyque sur une prédelle que l'on retrouve à Florence, à l'archidiocèse et son musée du Santo Stefano al Ponte. Alors peut-être pouvez-vous déjà nous expliquer, Nicolas Saint-Fargarneau, ce qu'est une prédelle.
Oui, les tableaux d'autel, les rétables, les polyptiques étaient donc ces grands décors peints qui était posé sur le maître-autel de l'église. Mais pour que ce positionnement soit bien établi, les menuisiers, puisque je vous rappelle que le support est en bois, le support de ces décorations était en bois, les menuisiers avaient pris l'habitude d'installer un soubassement qui portait tout le poids des panneaux qui venaient par-dessus. Et ce soubassement, bien entendu, il n'allait pas le laisser sans décoration. Et très rapidement, on a pris l'habitude soit de le travailler avec des motifs décoratifs et de l'orner d'or, de façon à ce que le fond de la composition corresponde à ce qui apparaissait au-dessus. Et on a aussi pris l'habitude de représenter dans cette partie basse, et vous le comprenez, c'est un élément qui est très large, puisqu'il fait la même longueur que l'autel lui-même, À l'inverse, il n'est pas très haut, quelques 30 à 40 cm. Donc on va le compartimenter et on va placer là des peintures, des petites peintures qui vont être souvent les épisodes de l'histoire du saint patron de l'église ou de celui qui est le patron du commanditaire. Et c'est la raison pour laquelle on voit souvent des histoires de saint Côme et saint Damien. Ça nous rappelle que ce sont les Médicis qui sont les commanditaires de ces œuvres. Et ainsi de suite. Donc cet élément bas, ce soubassement peint, on appelle ça la prédelle.
Et ça donne souvent l'occasion d'expérimenter de nouvelles techniques ou de nouvelles
visions. La partie principale de la composition, évidemment, est contrainte par les obligations du commanditaire, par les obligations de la liturgie. Et donc l'artiste ne peut pas toujours faire la preuve de sa fantaisie, de son habileté. Donc il est obligé de se soumettre à des obligations qui lui sont imposées. À l'inverse, dans cette partie basse, ce soubassement, cette prédelle, il est beaucoup plus libre parce qu'on considère que si les images centrales sont comme elles doivent l'être, on peut lui laisser cette liberté-là. Et en effet, c'est souvent là qu'on voit les artistes développer des thèmes, des moyens, des interprétations qu'ils n'osaient pas faire dans les parties hautes. Et c'est là que la nouveauté apparaît.
Vous avez mentionné tout à l'heure Paolo Uccello. C'est un contemporain de Fra Angelico, certes, mais quand même moins célèbre. Et pourtant, il jouait un certain rôle. Déjà à Florence, il fait figure de passionné de cette fameuse perspective linéaire.
Absolument. Alors, c'est un grand artiste. Il va être très vite reconnu en tant que tel. Il travaillera pour les Médicis, lui aussi. Et puis, au XVIe siècle, Giorgio Vasari va écrire une vie de cet artiste qui va être un petit peu le guide de sa légende, celle qui va suivre pour les siècles qui viennent. Et qu'apprend-on ? Eh bien, on apprend que l'obsession de Paolo Uccello, c'est de réussir cette mise en perspective. Parce que c'est très bien de l'expliquer. Alberti, par exemple, le grand théoricien, en 1436, rédige un traité, De Pictura, où il explique comment on va sur le panneau, le support bois, on va installer la perspective. Mais c'est bien de l'expliquer sur le papier. Seulement, ensuite, il faut l'appliquer. Et ça, ça nécessite une dextérité de la main, une intelligence de l'esprit et un regard porté sur la composition qui n'est pas donné du premier coup. Et donc, on sait que Paolo Uccello fait des essais qu'il y pense jour et nuit. Et la prédelle qui nous intéresse est passionnante parce qu'elle voit l'aboutissement de tous ses efforts. Alors, regardez cette adoration des mages. Je m'arrête juste un instant sur le thème de l'adoration des mages parce qu'il a un sens très fort chez les Médicis. Et à cette époque, puisque Côme l'Ancien appartenait à la congrégation de l'adoration des mages, et que dans leur palais, le Palazzo Riccardi Medici, eh bien, dans la chapelle, que voit-on ? La célèbre adoration des mages peinte par Benozzo Gozzoli. Donc vous voyez, pour eux, c'est un sens très fort. Et évidemment, l'idée de l'adoration des mages se développe à ce moment-là à Florence. Voilà la raison pour laquelle Uccello va la traiter, même si c'est en tout petit. Et comment nous montre-t-il cette scène ? Écoutez, c'est franchement très curieux parce que on pourrait s'attendre à ce que cette adoration des mages soit traitée comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire la Sainte Famille. Nous savons que maintenant l'enfant Jésus est né, donc son père et sa mère sont présents, la crèche est derrière eux, nous avons toujours le bœuf et l'âne, et puis nous voyons le cortège des rois venus d'Orient et qui viennent s'incliner devant l'enfant Jésus. C'est l'hommage des rois qui viennent en quelque sorte consacrer l'enfant à leur égal. C'est ça le message de l'Épiphanie, c'est de dire qu'un roi nous est né et c'est le sauveur.
Aussi pour les païens, qui sont représentés donc par les rois, c'est ça ?
Pour le monde entier.
Pour le monde entier,
pour
oui.
Pour le monde entier. On peut dire aussi que le premier hommage de ce type qui est fait, c'est l'hommage des bergers, que le deuxième hommage, c'est l'hommage d'étrangers. Vous savez, on n'est jamais prophète en son pays. Mais passons. Voilà la scène telle qu'elle est décrite par les évangiles. Et on peut s'interroger sur le fait de savoir pourquoi Paolo Uccello décale les personnages de la composition. Parce que regardez la scène, regardez la prédelle, et que voyons-nous ? Nous voyons la Sainte Famille à gauche, nous voyons les rois mages et leur cortège à droite, au milieu nous avons le vide. Et si nous allons plus avant, nous nous apercevons que derrière ce vide, il y a la crèche. Et là, nous faisons une découverte singulière. Je disais à l'instant, en regardant la fresque de la cellule numéro 5, peinte par Fra Angelico et son atelier, qu'il y avait une crèche, et derrière la crèche, il y avait une grotte. Eh bien, ici, il y a quelque chose de très étonnant. Il n'y a ni grotte, ni crèche, mais vous avez une cabane. Cette cabane, elle est faite avec une architecture de montants de bois. Et vous voyez même qu'on dirait des petits troncs d'arbres à peine équarris. Vous avez le départ des branches qui ont été tranchées. Et c'est avec ces montants de bois que la cabane tient probablement chaque petit tronc lié au suivant avec un nœud de cordelette. Et que voyons-nous ? Eh bien, nous voyons une architecture qui se développe avec les montants latéraux qui sont verticaux, avec un montant central. Et puis, nous avons, le linteau, en quelque sorte, avec là aussi un arbre qui vient parcourir la façade. Et puis, au-dessus sont posés, de façon oblique, les montants qui vont servir à la couverture. Et donc, nous avons une construction, résumons-la, elle est rectangulaire avec trois montants verticaux, elle est horizontale avec le linteau et puis elle est de biais, fermant les deux côtés d'un triangle géométrique, donc la partie supérieure qui supporte la couverture proprement dite. Et ce dessin-là, vous le voyez répété dans le fond de la composition, c'est-à-dire dans le fond de la cabane. Vous le retrouvez exactement comme je viens de le décrire. La seule différence, c'est que, bien entendu, il est plus petit. Et maintenant, si vous regardez l'intérieur de la cabane, l'intérieur de la crèche, vous voyez que toutes les lignes nous conduisent vers un point de fuite qui est au fond de la composition. Et que la construction telle que l'a conçue Paolo Uccello lui permet justement de donner peut-être l'une des premières représentations d'une perspective géométrique. Vous avez un axe central, vous avez des points de départ latéraux et vous voyez que tout conduit vers le fond de la composition à nouveau, vers le point de fuite qui est placé au milieu. Donc, c'est une démonstration magnifique d'une réussite, puisque là, Paolo Uccello nous montre qu'il maîtrise en effet la perspective géométrique.
Oui, comme vous disiez tout à l'heure, il y pensait jour et nuit, il était un vrai passionné,
paraît-il. C'est très intéressant parce que
cette nouvelle découverte.
Nous voyons que là, il l'a appliqué de façon extrêmement réussie, les principes qui sont les principes de cette nouvelle peinture. Alors, à quoi correspond-elle ? Parce qu'il faut quand même le dire, c'est plus facile de l'évoquer avec Paolo Uccello qu'avec Fra Angelico. Nous avons maintenant une représentation, même s'il s'agit de la représentation d'une scène religieuse, cette représentation est conçue par l'intermédiaire des critères qui sont les critères d'une science qui est la géométrie et qui correspond à l'approche purement humaine de l'humanité. C'est-à-dire que le monde extérieur, nous l'appréhendons et nous le représentons sur la surface murale, sur le panneau de bois, sur le tableau, sur la peinture. Nous le représentons très exactement de la même façon que notre œil le perçoit. Et vous voyez que là, nous avons en quelque sorte une transformation iconique. Autant on peut dire que jusqu'à la fin du Moyen Âge, la peinture, c'est une icône, comme autrefois les icônes byzantines, c'est-à-dire que l'image reflète quelque chose de sacré. Et ce sacré-là n'appartient pas à notre monde. Désormais, vous voyez avec ces images des images qui appartiennent à notre monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que désormais le peintre est devenu cet intermédiaire qui va maîtriser la réalité. Et évidemment, c'est quelque chose de bouleversant parce que n'oublions pas que de cette époque, on peut dire des années 1430 jusqu'aux années 1880, les critères de la représentation seront exactement les mêmes dans la peinture occidentale.
Oui, c'était vraiment un moment extraordinaire dans l'histoire de l'art.
C'est une rupture.
Parce que cette Renaissance travaille en même temps au point de vue technique sur la perspective et en même temps sur une nouvelle représentation
il ne faut pas confondre.
Sur l'humanisme.
Voilà, ce que je voudrais simplement expliquer, c'est que la technique a un sens. Ça n'est pas la technique pour la technique. Ça n'est pas un exercice de style. Je vais désormais représenter la mise en perspective correctement. C'est pas simplement ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la place de l'homme comme spectateur. Et évidemment, ça nous ramène à un monde qui n'est plus centré sur la divinité, mais qui est centré sur l'homme. C'est, bien entendu, ce monde-là qui s'ouvre avec la Florence du milieu et de la fin du XVe siècle, avec ces grandes familles mécènes, notamment les Médicis, qui vont compter de façon si importante dans l'éclosion de la Renaissance, dont je vous rappelle que la Renaissance n'est pas simplement à Florence la Renaissance des arts, c'est une vraie culture qui se met en place. On redécouvre les textes de l'Antiquité. Quand je dis les textes de l'Antiquité, ce sont ces textes qui ont été légués par la Grèce, par Rome, et donc toute une série de textes notamment philosophiques, traduits par des interprètes, et qui évoquent des modes de pensée qui n'ont plus rien à voir avec ceux de la religion et de la chrétienté.
Oui, c'est vraiment une époque clé dans l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'art, bien sûr. Nicolas Saint-Fargarneau, un grand merci d'être venu spécialement avant les fêtes dans notre studio et merci d'avoir, avec Fra Angelico et Paolo Uccello, éclairé notre vision de ce thème sacré, la nativité et l'adoration des mages. À vous d'abord, Nicolas Saint-Fargarneau, et à tous nos auditeurs, nos meilleurs vœux pour cette fête de Noël et pour une nouvelle année pleine d'énergie joyeuse, de lumière dans notre quotidien et beaucoup d'amour pour tous. Ça fait toujours du bien.
Merci et je vous transmets à mon tour tous ces vœux également ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci encore.